des troupes.
Alors avant de continuer, d'aller un peu plus loin, moi je vous propose d'écouter votre portrait croqué par un dessinateur satiriquement anticonventionnel, vous savez de qui je veux parler.
Que je connais, oui, oui.
Loïc Faujour, ex-compagnon de route de feu la revue Zo.
Vous le soupçonnez d'être un peu maso ?
Ouais, il est un peu maso, aller faire du vélo en Alsace par moins 15 et vouloir écrire après, je sais pas comment on peut faire avec les doigts gelés. Soupçonne pas d'être maso pour l'écriture. Enfin, quoique, il est persuadé qu'il va faire une carrière d'écrivain, ce qui est, franchement, il faut être un peu maso pour penser ça aujourd'hui. Et il veut écrire, il veut réussir dans l'écriture. Et bon, il est philosophe et un télo. Dans ce monde aujourd'hui, ouais, il faut être un peu maso peut-être pour faire une carrière en pensant qu'on peut réussir dans la philosophie et dans la littérature.
Est-ce que c'est un travailleur acharné ou au contraire un dilettante?
Je sais pas, je l'ai jamais vu bosser. Il arrivait en nous ramenant ses reportages, en nous disant qu'il avait été à la fête du Front National, mais aussi vite, il a pas du tout été à la fête du Front National. Il a été voir sa maîtresse et puis et il a fait son papier en sortant le soir dans le métro. Moi, je lui conseille d'aller faire des courses en VO. Il y a plein de critériums en Bretagne avec des primes tous les 500 mètres, il pourra faire quelque chose.
C'est très dur de reprendre l'antenne.
Oui, parce que c'est à mourir de rire, ouais.
Alors, où est la vérité? Oui, le faux.
Ça, je laisse une...
Un faux ou un tox?
Je laisse vraiment du mystère autour de ça. Mais... Non, mais effectivement, les critériums en Bretagne, j'espère bien les faire. Je suis inscrit sur le marathon de Paris le 4 avril prochain. Donc, c'est mon prochain défi masochiste de philosophe.
Dans le bon sens? Vous allez courir dans le bon sens?
Oui, 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 je vais courir dans le bon sens, mais avec un t-shirt du Mérou de Quiberon, je pense, oui.
Ah, Mérou de Quiberon Club, oui. On l'a cherché toute la nuit.
On en parlera peut-être tout à l'heure, mais le Mérou de Quiberon porte ma pensée et ma vie.
Restons un petit peu sérieux pour l'instant, on aura tout le temps de rire un petit peu plus. Le fait que Attention Danger travaille sort au moment où le frère ennemi de Pierre Karl, Daniel Schneiderman, est licencié par le journal Le Monde. Amuse-t-il le dadaïste microbien justement qui est en vous?
Alors, je n'ai malheureusement pas vu les films de Pierre Karl concernant Schneiderman. J'avais vu Pas vu, pas pris. Je n'ai pas vu Enfin pris, donc qui traite effectivement du faux décodage de l'information. Mais enfin, oui, il suffit de regarder une émission de Daniel Schneiderman pour comprendre que on pose pas vraiment les questions de fond. Je pense ici à un ami parfois énervant parce qu'il est marxiste-léniniste et que les marxistes-léninistes sont rarement drôles, mais qui s'appelle Michel Collomb et qui fait un travail de décodage d'information qui est vraiment intéressant et parfois critiquable, mais souvent très très bien fait. Et il avait proposé à plusieurs reprises des reportages justement qui analysaient la propagande française en Afrique ou américaine sur l'Irak ou des choses comme ça. Et ça n'est jamais passé chez Daniel Schneiderman parce que précisément ça posait des questions un peu plus profondes que voilà, est-ce que le cadrage de telle émission de télé est vraiment honnête? Oui.
Donc c'est sur les images qu'il travaille même.
Comment?
C'est sur les images même qu'il travaille.
Qui, Michel Collomb? Oui. Oui, oui, il travaille sur les images, sur la presse, sur les photos, sur les discours d'agences de communication qui organisent soit effectivement des images pour la télé, soit des fausses informations.
Mais... C'est du détournement, ce que faisaient finalement les situationnistes ou...
C'est-à-dire le... Vous voulez dire
le détournement d'images. Prendre une image officielle, propagande, et la détourner pour en faire autre chose.
Oui, oui. Sauf que les situationnistes avaient comme ambition d'utiliser ces images pour faire rire, pour rendre plus libre, pour se moquer. C'est-à-dire, il y avait une ironie. Je pense ici à La dialectique peut-elle casser des briques, qui est un film de kung-fu qui a été récupéré, détourné pour en faire une œuvre de... Allez, ça ressemble théoriquement à de la propagande. En fait, c'est un énorme éclat de rire et on rigole bien pendant le film.
Qu'on peut voir au Forum des Images.
Oui, on peut le voir au Forum des Images et peut-être que ça existe en vidéo aussi, mais je n'ai pas trouvé le distributeur. Mais là, on rigole. En revanche, quand on a un organe de presse ou une agence en communication qui s'appelle Elon Knowlton, par exemple, qui diffuse des images véritablement truquées et que tout ça est fait pour justifier une guerre, c'est pas du situationnisme. Ça s'appelle la propagande et ça fait des morts et c'est gênant.
Ernest Antoine Seyer a dit « Monsieur Raffarin, merci d'avoir sifflé la fin de la récréation ».
Oui, bah, il serait temps de siffler le début de la récréation, en fait, ouais. Et alors évidemment, ce qui embête Monsieur Sellière, c'est qu'on travaille moins. Mais alors c'est très bien, à mon avis, qu'on travaille moins. Mais c'est pas la seule question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Et disons, un des objectifs qui est le mien, c'est d'abolir justement la distinction entre récréation et hors de classe. abolir cette distinction entre travail et loisir, c'est-à-dire arriver à faire que quand on discute avec quelqu'un, qu'on rencontre un ami, qu'on est en vacances, je ne sais où, ça nous donne des idées et ça nous enrichisse personnellement pour un travail. Et inversement, quand on travaille, ben, qu'on soit avec des gens intéressants et qu'en fait, il n'y ait plus de distinction entre travail et loisir. Ce qui n'est pas évident et ça pose évidemment plein de problèmes, donc j'ai pas la solution universelle, mais je pense que ça peut être une vraie ligne de fuite. Essayez d'avoir un travail qui en fait se confonde avec votre vie. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que quand je suis en cours, je m'amuse à mourir de rire, ou pas à mourir de rire, où il y a des moments où on a envie de pleurer parce que c'est extrêmement intense, mais en tout cas, on est au cœur même de la vie. Et être au cœur même de la vie, c'est ça qu'il faut faire dans un travail. Ouais.
Parce que très rapidement, il faut dire, vous êtes enseignant à l'ESSEC, HEC, et
alors pas philosophie. Pas HEC, mais j'enseigne effectivement ce qu'on appelle d'une manière générique la culture générale dans différentes grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, et notamment effectivement l'ESSEC centrale, Télécom Paris et Supleco Rouen principalement.
Je vois nos techniciens qui sont à genoux devant vous. Je crois qu'ils doivent étudier là-bas.
Hein. Un gourou.
Alors, vous parliez de conjuguer loisirs et travail tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir si, selon vous, les 35 heures seraient un début de solution ou ce serait plutôt un placebo. Comment vous les vivez les 35 heures aujourd'hui?
Alors moi je les vis pas puisque je suis vacataire dans plusieurs établissements, que j'écris, que voilà, là il est 18h ou 18h15, je suis en train de travailler mais en même temps je suis content d'être là. Je vais donner un spectacle de magie la semaine prochaine jusqu'à minuit ou 2h du matin. Je compte pas les heures, voilà.
Venir dans notre studio de psychanalyse, selon vous, c'est un travail?
Comment ?
Venir dans notre studio de psychanalyse, selon vous, c'est un travail ?
C'est justement ni un travail, ni un loisir, c'est une activité parmi d'autres, plutôt plus enthousiasmante que les autres. Mais voilà, donc moi je ne les vis pas les 35 heures, mais ça c'est mon problème. Concernant la mesure des 35 heures, moi je pense que... Alors je ne suis pas du tout un technicien ou un spécialiste des 35 heures, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Mais dans l'ensemble, oui, si on part du principe qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient terriblement en entreprise parce que les tâches qui leur sont données sont très ennuyeuses, eh bien réduisons le nombre d'heures qu'ils ont à faire en entreprise. Oui, partons du principe qu'effectivement le but principal dans la vie est de vivre, est de s'amuser, et puis aussi, ben il y a pas une minute à perdre parce qu'on va tous mourir. Et ce qui est terrifiant, c'est de l'idée que je puisse être mort avant de mourir et l'idée de vivre dans une société qui est morte avant de mourir. Ça, oui, ça m'effraie, pour des raisons personnelles d'ailleurs, historiques. La mort, moi, m'a pas frôlé de près, mais enfin, mon père est mort quand j'étais très jeune. Et donc, très jeune, j'ai su que moi aussi, j'allais mourir et que tous les gens que j'aimais bien allaient mourir. Avant moi ou après moi. Donc, d'ici là, j'ai envie d'en profiter. Et il me semble que il y a souvent une imposture dans notre société qui est de partir du principe que justement on ne va pas mourir et que si on travaille bien aujourd'hui, vous verrez, demain on pourra en profiter. Non, moi j'ai envie d'en profiter tout de suite. J'ai envie d'organiser toute ma vie pour pouvoir en profiter tout le temps, tout de suite.
Pour résumer, je citerai Pierre Desproges qui a dit « Vivons heureux en attendant la mort ».
Oui, il était pertinent, oui. Ouais.
Un des thèmes du film, c'est peut-être d'opposer la notion d'individu à celui de l'hédoniste. Alors, votre réponse à l'hédonisme, pardon, puisqu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit, c'est de vous mettre en scène par l'écriture, la lecture, et vous avez un rapport très construit, exigeant par rapport au langage. Est-ce que cette opposition individualisme-hédonisme, vous l'avez ressenti ou pas dans le film? Moi, j'aurais aimé, justement, qu'il soit un peu plus approfondi.
Alors, à vrai dire, je ne comprends pas votre question.
Mais c'était bien le sens de ma question, ne pas la comprendre.
D'accord, on va pas y arriver. C'est-à-dire, il se dégage dans le film effectivement une impression d'individualisme. Ou...
C'est-à-dire que dans le film, on voit ces chômeurs, on a à peu près 10 chômeurs, qui tous découvrent le plaisir de la lecture. Et c'est vrai que la lecture, c'est quand même un rapport très individuel, un rapport à soi, un rapport au monde aussi qu'on se construit. Et tout d'un coup, à la fin, on a ce discours finalement propagandiste et pro-pétiniste, il faut le dire, de Jean-Pierre Raffarin, qui lui, finalement, sous une forme un peu déguisée, mais ce qu'il veut, c'est l'hédonisme. Donc, pour moi, le sujet du film, c'est ce rapport opposition entre l'individu et l'hédonisme.
Oui, mais Je sais pas, parce que l'hédonisme, vous le voyez comme quelque chose de négatif.
Lié à la société de consommation. Ce qu'on appelle hédonisme, individualisme.
Oui, alors chez moi, ça
fait... l'individuel, c'est un peu différent. Au contraire, il faut...
Ça fait écho différemment, parce que là, je pense à la personne que j'aime bien, qui a fait la préface de mon livre, qui s'appelle Michel Onfray, et dont le thème principal est justement l'hédonisme. Mais un hédonisme qui ne correspond pas à une société de surconsommation, mais qui correspond à une société de plaisir. Et les références de Michel Onfray sont plutôt du côté de Fourier, Stirner, Nietzsche, les situationnistes, les penseurs anarchistes, plutôt que du côté de Jean-Pierre Raffarin. Enfin, ou alors je me suis trompé d'ami. Mais l'hédonisme, je ne l'associe pas à Jean-Pierre Raffarin. Le discours de Jean-Pierre Raffarin, c'est un discours pas du tout hédoniste, puisqu'il nous explique que le travail, c'est bien. Et en début de film... Pierre Karl rappelle l'étymologie du travail, qui est le tripalium, c'est-à-dire un instrument de torture. Bon, ça, l'étymologie ne résume pas tout, mais enfin, effectivement, il y a dans le travail une part de souffrance. Et Jean-Pierre Raffarin, dans son discours, nous dit simplement « le travail, c'est bien ». Et il le répète avec, effectivement, un lyrisme débridé.
C'est bien parce que vous pourrez consommer.
Oui, il le dit même pas. Il le dit même pas. C'est annoncé pour lui-même.
C'est surtout parce que vous nous ferez gagner de l'argent avant de...
Oui, ou je crains que ce soit même plus sur ce registre-là. Je crains qu'il n'y ait absolument plus aucune pensée politique chez Jean-Pierre Raffarin. Malheureusement, il n'y en a plus en face non plus.
Est-ce que votre livre que vous avez écrit, qui a une ubiquité, donc préfacé par Michel Onfray, c'est pour gagner de l'argent?
Oui. Bah, d'ailleurs, j'en ai gagné beaucoup. Hein. Vous imaginez, je suis donc édité par les éditions...
Vous ne l'avez même pas offert.
Comment ?
Vous ne me l'avez même pas offert.
Ben non. Non, je le fais payer parce que j'en ai vendu quand même 23 exemplaires et demi, donc si en plus je les offre...
C'est un peu dur.
Je fais ça surtout pour l'argent, à vrai dire. Oui.
Avant de continuer, on va écouter l'un des réalisateurs, Stéphane Gox. C'est une interview réalisée à l'occasion de l'avant-première au cinéma La Saint-André-des-Arts et c'était mardi dernier.
1999, Pierre Karl est à Argelès pour présenter son premier film « Pas vu, pas pris ». À cette occasion, il rencontre deux jeunes documentaristes, Stéphane Gox et Christophe Coelho. Séduits par leur mode de fonctionnement, travail artisanal, système d'autoproduction, il trouve surtout dans les questionnements de ces deux sympathiques contestataires un fort écho à sa propre démarche, enrayer toute forme de discours dominant. Attention, danger travail ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Stéphane Gox.
Non, je pense qu'il s'agissait comme pour l'autre film d'aller à l'encontre de discours dominants et d'essayer d'inciter un questionnement autour de ces problématiques là, quoi, un questionnement qui est occulté pour tout un tas de raisons, quoi, les questions qui émergent dans les débats, on sent très bien qu'il y a assez peu d'espace où en règle générale ils sont entendus et débattus. Ça part sur une intention commune, sur une affinité partagée, on va dire un certain goût pour la dissidence. Et très rapidement, on sent qu'en arrivant à s'émanciper de cette figure du chômeur heureux, on peut arriver à proposer un questionnement assez dérangeant.
C'était Stéphane Gox, l'un des réalisateurs de Ascension Danger Travail. Une petite après l'interview.
Bah, il dit qu'effectivement il est là pour en fin de compte jeter un pavé dans la mare, et je crois que c'est effectivement le mérite de ce film. C'est un merveilleux document d'agit-propre, c'est-à-dire qu'on fait bouger les choses et on dit exactement l'inverse de ce que dit tout le monde, c'est-à-dire qu'on explique que les chômeurs sont en train de pleurer parce qu'ils veulent absolument retrouver un travail, on dit que le travail c'est formidable, que la vie en entreprise c'est épanouissant. Et puis, bah, ce film dit exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit, non, il y a des chômeurs qui sont heureux, qui rigolent, qui sont même plutôt contents d'être au chômage, qui en profitent pour faire plein de choses intéressantes. On explique aussi qu'en entreprise, on s'ennuie très souvent. Pas toujours, il s'agit pas de faire une généralité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient en entreprise. Moi, j'ai un peu travaillé en entreprise, je m'y suis ennuyé. Mais bon, évidemment, c'est la limite du film. Il prend un contre-pied radical. Moi, je ne critique vraiment pas ça parce que c'est absolument nécessaire, parce que tout simplement, Antoine Célière, quand il veut parler sur TF1, il y va, il claque dans les doigts et il y est tout de suite. Donc, il est important qu'il y ait des gens qui fassent des documents qui aillent à l'encontre de cette parole-là, en sachant que Pierre Karl ne passera jamais sur TF1, ou peut-être une fois, mais très difficilement.
Donc c'est mal parti. Pour
c'est sans doute mal parti. Oui.
Mais il a trouvé son public justement par le cinéma et donc dans les réseaux alternatifs.
Oui,
ce qui
oui.
est très bien pour lui.
Oui, et ça se diffuse. Oui, ça se diffuse. Mais bon, peut-être qu'un jour il passera sur TF1. Il sera intégré aussi en tant qu'agitateur. Oui.
Je pense pas que ça l'intéresserait parce que finalement il perdrait toute son identité et il arrive quand même à faire à peu près 100 000 spectateurs de moyenne.
Oui, ce qui est énorme.
Ouais. Ce qui est énorme. Hein.
Donc c'est vraiment nécessaire et ils ont raison de dire voilà, on va essayer de lancer un débat avec ça. Bon, la seule question, c'est effectivement, est-ce qu'on peut partir dans un débat avec uniquement un discours caricatural, parce qu'il faut aussi dire que aller interviewer le congrès, enfin les congressistes du MEDEF au mois d'août, c'est une caricature, et des gens qui ont décidé d'arrêter définitivement de travailler et de ne plus rien faire, c'est aussi une caricature. Le débat est peut-être ailleurs. On était présents là, ensemble à la projection en avant-première, et il y avait une femme qui était un petit peu énervée par le propos et qui disait voilà, vous dévalorisez le travail, et moi je suis sage-femme. Et elle disait le travail, je sais ce que c'est. Et elle parlait effectivement du travail de l'accouchement. Et moi, ça m'a vraiment touché parce que, je suis père d'une petite fille, j'ai vu ma femme accoucher, et c'est un vrai travail, c'est le moins qu'on puisse dire.
Dans le petit Robert, ça apparaît dans les deuxièmes définitions, justement, le travail.
Oui, bien sûr, le travail d'accouchement, oui. Et c'est vrai que c'est un vrai travail, c'est une vraie douleur, mais bon sang, c'est une explosion de vie et de vitalité absolument indiscutable et magnifique. Voilà.
Puisque la vie est un combat, c'est aussi un travail.
Oui,
simplement.
Oui.
Et moi, j'aurais une question à vous poser. Vous, en qualité de chômeur, est-ce que vous pensez que vous seriez heureux? L'avez-vous déjà été, chômeur?
Non, je crois que j'ai jamais été chômeur. Si, j'ai dû me mettre peut-être au chômage ponctuellement pendant quelques mois, mais en continuant des activités. Je me suis jamais posé la question, à vrai dire. Je me suis jamais conçu. C'est ce qui m'a un peu dérangé dans le film, c'est qu'on passait un peu d'une caricature à l'autre, c'est-à-dire qu'on avait quelqu'un notamment qui faisait de l'événementiel et de la communication, c'est-à-dire à peu près le sommet du n'importe quoi capitalistique actuel, et qui tout d'un coup disait « maintenant je fous plus rien, je suis sur mon canapé, je fume des clopes ». Et puis on avait quelqu'un qui vendait des salons avec des méthodes de vente quasiment crapuleuses et mafieuses.
Et puis on avait le petit Marseillais qui rigolait tout le temps.
Oui. Alors lui il avait aussi un côté comme ça, c'est-à-dire oui. Et puis tout d'un coup je fais plus rien. Voilà.
C'est pour moi le film de n'être que caricatural là à ce moment-là.
Ben c'est un peu la limite, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir des gens qui sont complètement débridés dans le cynisme, c'est-à-dire je vends n'importe quoi, n'importe comment, parce que je gagne de l'argent et puis je vous emmerde, mais je dois dire que la vachie qui fume sa clope sur son canapé en ne faisant rien ne m'intéresse pas non plus. Moi j'ai envie d'avoir des guerriers, j'utilise le mot...
Des guerriers pacifiques.
Ouais, non, pourquoi pas des guerriers très combatifs, mais qui sont des combattants de la diffusion du bonheur, de la diffusion du plaisir, de l'échange, de la bienveillance, de la sympathie, voilà. Ouais. Mais pour diffuser ça, vu qu'on est dans une société qui n'est ni bienveillante, ni sympathique, ni joyeuse, bien souvent, il faut des gens qui soient combatifs, oui, et qui soient prêts à l'imposer. Oui.
Alors nous allons faire une pause musicale avec un choix qui est le vôtre, qui est les Sex Pistols. Les Sex Pistols, le punk, Do It Yourself, les épingles et nourrices, finalement, les épingles et nourrices, ça vous ressemble bien, non?
Oui, c'est tout à fait mon style. Je risque de vous étonner si je vous dis que j'ai choisi ça parce que je pensais à une phrase d'un poète silésien, donc allemand, d'origine silésienne du XVIIe siècle, qui s'appelle Silésius, justement, et qui disait, je réfléchissais un peu aux questions liées au travail, justement, et Heidegger, dans Le Principe de Raison, cite une phrase de Silésius qui est « La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit. »
Et j'ai pas bien compris, là.
La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Et je réfléchissais à ça, et évidemment, présenté comme ça, ça paraît un peu ennuyeux. Et j'ai pensé aux Sex Pistols, et effectivement, les Sex Pistols, ben, ils fleurissent parce qu'ils fleurissent, et ils demandent pas d'explication, pas de justification, ils ont fait ça. Et quand ils chantent, là, dans cette chanson, et qu'ils parlent de l'anarchie, ils disent, voilà, je veux être un anarchiste parce que c'est the only way to be, c'est la seule façon d'être. Et c'est pas tellement un discours politique, mais ce qui m'intéressait, c'est cette idée de, voilà, the only way to be. Je dois être comme ça. La rose, elle pousse parce qu'elle doit devenir une rose. Le chien, il court parce que bah, parce qu'il est un chien et qu'un chien, ça court. Le problème aujourd'hui dans le milieu du travail, c'est qu'on pousse les gens qui sont des roses ou des chiens ou des, je ne sais pas, des arbres potentiels à devenir complètement autre chose que ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'on s'éloigne beaucoup de la vie, on pousse des gens qui ont une vitalité, une envie de vitalité, d'une expérimentation de la vitalité, on les oblige en fait à se consacrer essentiellement à des activités d'étude de la vitalité, c'est-à-dire que la gestion, la science, le commerce, la philosophie aussi, la sociologie, la politologie, etc., sont exclusivement des commentaires de la vie, des théorisations de la vie, des études de la vie, de la gestion de la vie, mais on perd quelque chose bah, qui est justement cette, la vie, tout
la
simplement.
Terrorisation.
Là,
la terrorisation. This is another noise show. Stay tuned, folks. It's a really good show. We got giveaways. We got guests, and of course. Voilà, c'était un cri du cœur.
C'était oui voilà, un cri immédiat, oui, qui
les a terroristes coupés, ouais. À la technique, là, qu'est-ce qui se passe?
Je peux vous offrir un petit cadeau.
Oui,
parce que je rétablis une petite vérité. En fait, le livre, quand même, vous me l'avez offert. Alors moi, je vous offre un petit cadeau. C'est un objet qui vous ressemble beaucoup. C'est une épingle à nourrice. Parce que vous êtes toujours tiré à quatre épingles. Et derrière ce petit visage, finalement, de poète lisse qui s'y frotte, s'y pique.
Visage lisse.
Merci pour cette épingle à nourrice.
Visage punkien aussi avec la coiffure.
Merci.
C'est pas d'un rouge qui pète, mais c'est quand même punkien. Bien, et bien moi, j'aimerais qu'on parle de l'éducation, puisqu'on parle du travail. J'aimerais qu'on revienne aux sources. Il y a d'abord une éducation avant cela. Et vous avez d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle « La cahier d'ubiguïté ». Pour une pédagogie bouleversante, alors je vais redéfinir ubiguïté, c'est la faculté d'être en plusieurs lieux à la fois.
Comme oui. Sarkozy.
Vous vouliez ajouter
c'est
une précision
un point commun.
Par rapport à la sortie du bouquin?
Oui, non, pour une pédagogie bouleversante, ce n'est pas le sous-titre du livre, c'est un des textes qui se trouve dans le livre, puisque le cahier d'ubiquité, effectivement, c'est la capacité à être à plusieurs endroits, et ce livre est un recueil de textes, en fait, où on parle aussi bien de cyclisme que de pédagogie, d'animalité, de vitalité ou de libertinage.
Voilà. Moi, je vais me baser ce soir sur « Pour une pédagogie bouleversante ».
D'accord.
Qui m'a aidé à préparer mes questions.
Oui, moi je lance mes feuilles, j'en ai marre, voilà.
Ah, que d'happening, Sébastien, ce soir. Alors, vous dites justement dans ce livre, l'école n'est plus un lieu de vie, mais une machine qui fournit à notre époque discrètement sordide ses ressources humaines et sa chair à canon. Est-ce que vous pourriez nous éclairer par rapport à ces propos?
Oui,
au sujet de ces propos.
L'idée générale du texte, ça part en fait de plusieurs expériences. Une expérience qui est la mienne en tant qu'élève et une autre qui est la mienne en tant que professeur.
D'entrée, on a l'impression que ça a été un enfer pour vous, l'école.
Alors, pas forcément un enfer. J'ai vécu des choses intéressantes, mais effectivement, je garde finalement peu de souvenirs de professeurs qui m'aient vraiment enthousiasmé. Je garde plus de souvenirs de certaines connaissances qui ont pu m'intéresser, mais bon, j'ai rarement senti vraiment le feu de la vie partout, en permanence, dans les écoles.
Peu enthousiasmant, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant plus que vous dites, ici on tue les gosses par l'endormissement, ici on tue la vie doucement, de l'école maternelle aux thèses de fin d'études. Alors comment être heureux dans un milieu scolaire avec de tels propos?
Oui, alors bon, évidemment, il y a le lyrisme du texte, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la pédagogie aujourd'hui, telle qu'on la vit, effectivement, dans les écoles, avec des professeurs parfois exceptionnel, mais il faut le dire souvent très ennuyeux et avachi. La pédagogie aussi, telle que je l'ai vécue dans une école de commerce, j'ai un parcours un peu alambiqué qui m'a fait passer par Subdeco. La formation de Subdeco a effectivement quelque chose d'assez terrifiant, puisqu'on récupère des gens d'une vingtaine d'années au sortir de la prépa, et on leur explique tout d'un coup qu'ils vont devenir managers. Et sans poser la moindre question.
Il existe quand même aujourd'hui des modes d'éducation alternatifs. On emmène quand même les enfants voir des expositions, on leur fait assister à des conférences. Il y a des professionnels qui viennent intervenir dans les cours des professeurs.
Oui. Alors, il y a. Mon propos n'est pas du tout de dire que tout est catastrophique dans l'enseignement partout. Il y a plein de pôles de résistance à droite à gauche. Il y a plein de choses intéressantes qui ont lieu. Ce que je dis dans ce texte principalement, c'est que ça reste, disons, de la culture générale. Nietzsche parlait de la culture générale en disant c'est une infection. Pourquoi il parlait en ces termes? Parce qu'il disait que la culture générale était simplement une petite parenthèse qu'on offrait aux étudiants. Et effectivement, on forme des techniciens, on leur dit voilà, plus tard il faut que tu deviennes professionnel de tel ou tel métier, que tu aies telle et telle fonction, telle tâche, et puis ensuite tu feras des enfants et tu auras une famille, tu iras voter. Et puis maintenant, voici en fin de journée un cours sur les poètes dadaïstes qui va durer trois quarts d'heure et qui n'aura strictement aucun lien avec tout ce qu'on fait pendant l'année, qui n'a strictement aucun lien avec le monde de l'entreprise, mais on va t'en parler comme ça, comme d'un divertissement. Alors on pourrait parler des peintres flamands, des dadaïstes, de n'importe qui, tout est interchangeable, ça n'a plus aucun intérêt. Pour moi, l'enjeu, c'est au contraire de partir d'un projet qui existait véritablement, qui est le projet humaniste, et je le dis dans ce texte, je pense que la pédagogie aujourd'hui est un échec de l'humanisme. Le projet humaniste, c'était de donner des connaissances aux gens pour qu'ils puissent progressivement faire évoluer la société et la faire progresser. Aujourd'hui, on se retrouve avec une société schizophrène, avec des gens qui effectivement ont intégré beaucoup de connaissances, mais qui, le plus souvent, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, mais bien souvent, ne font aucune connexion entre des belles paroles de poètes qu'ils aiment beaucoup, des paroles profondes de philosophes qu'ils apprécient aussi, et leur vie réelle. C'est-à-dire qu'on a plein de gens aujourd'hui qui... La formulation est un peu terrible, mais disons, il y a quelques siècles, on faisait n'importe quoi parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on fait n'importe quoi, mais on sait qu'on fait n'importe quoi.
Et des pantins, en somme.
Comment ?
Nous sommes des pantins, en somme.
Ben, on est des pantins conscients. C'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement, tel et tel travail n'est pas intéressant, ça n'a aucun sens, voire c'est franchement cynique. Mais il faut bien vivre. Voilà.
Comment se passe un cours avec Yann Kerninon, un cours de pédagogie?
Alors ça dépend des endroits où j'enseigne et de ce que j'ai à y faire. Il y a des cours, disons...
Vous enseignez encore l'art et la subversion?
Oui,
c'est un des thèmes que vous aviez.
J'ai toujours un cours en fait sur le dadaïsme, c'est-à-dire sur la rupture en fait entre l'art... l'art classique et ce qu'on appelle
académique.
L'art académique et l'art, ce qu'on appelle l'art moderne et contemporain, c'est-à-dire en gros pourquoi on a le 5 février 1916 des dadaïstes venus de plusieurs pays qui, au plein milieu de la Première Guerre mondiale, décident de faire absolument n'importe quoi, de sauter sur place en montrant leur cul, et qui affirment voilà ce qui est le plus important de faire aujourd'hui. Voilà.
Oui, mais alors, l'histoire donc, officielle n'a retenu finalement que Tristan Tzara et pas Hugo Ball, qui est l'inventeur du dadaïsme.
Oui,
encore une fois, c'est une...
Oui, c'est vrai que Grasset a publié une biographie de Tzara et pas Hugo Ball, et c'est Michel Giroux qui se bat pour publier effectivement La fuite hors du temps, qui est un magnifique livre de Hugo Ball, qui est publié maintenant, mais qui est effectivement moins reconnu, mais qui est pourtant extrêmement intéressant. Là, je travaille principalement sur les dadaïstes allemands, effectivement, allemands ou suisses, c'est-à-dire Ball, Hülsenbeck, Haussmann, qui étaient des dadaïstes plutôt politiques, même si c'était des artistes et des mystiques, mais qui n'étaient pas des dadaïstes purement artistiques. Mais on s'est un peu éloigné de la question qui était sur le cours, il y a deux choses que je pratique. Il y a premièrement ce qu'on appelle des cours magistraux, donc qui abordent différents sujets. J'ai notamment effectivement un cours sur le dadaïsme qui n'est pas à proprement parler un cours d'histoire de l'art, mais plutôt de philosophie de l'art. voire de philosophie politique de l'art et du dadaïsme. Et puis j'ai un autre cours important à sud de Rouen principalement qui s'appelle L'homme et sa liberté face au commerce et à la consommation, où on essaie justement auprès d'étudiants d'école de commerce de poser les questions qu'on ne pose jamais en école de commerce. Pas forcément pour faire un travail de révolution dans les écoles de commerce, mais en tout cas pour poser les questions à des gens qui se posent beaucoup de questions
dans
les écoles de
commerce. C'est quoi ces questions qu'on ne pose jamais dans les écoles de commerce?
Eh bien, notamment, c'est la question de la manipulation par la publicité, la question du sens du travail que l'on fait, la question de l'enthousiasme que l'on peut avoir dans un travail, la question de la liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est simplement choisir entre plusieurs métiers plus ou moins ennuyeux et puis finalement se résoudre à en prendre un qui n'est pas trop ennuyeux? Ou est-ce que la liberté, c'est véritablement expérimenter des enthousiasmes? J'aime bien le mot enthousiasme parce qu'il, étymologiquement, il signifie être porté par les dieux, être habité par les dieux. Et effectivement, quand on est enthousiasmé, quand on voit quelqu'un de sympathique ou quand on voit un objet qu'on aime bien, on est enthousiasmé et on n'a pas besoin de se dire pendant 8 heures est-ce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Voilà.
Vous êtes l'opposé d'une société pragmatique et fonctionnelle. C'est un doute, c'est un silence qui doute.
Est-ce que je suis à l'opposé d'une société pragmatique et... Non, au contraire, on pourrait. Alors, je suis pas le tenant d'une société mécanique, matérialiste et fonctionnelle au sens technique du terme. En revanche, je ne pense pas être, disons, un utopiste. Je crois que l'enthousiasme, c'est quelque chose de très réel. C'est pas une considération comme ça, très abstraite. Au contraire, quand vous croisez quelqu'un et que vous tombez amoureux. Alors, on peut faire plein de théories métaphysiques là-dessus, mais non, c'est quelque chose de très très concret. Quand vous voyez un objet que vous aimez bien, ou une activité qui vraiment immédiatement vous plaît et vous rend heureux, c'est extrêmement concret. Et ensuite, on peut convoquer un maximum de moyens pour essayer d'avoir dans sa vie autant de moments possibles de ce type-là, et le moins de moments possibles d'ennui, de frustration, de négation des enthousiasmes ou de mise en attente des enthousiasmes.
Alors, où autant de vos cris et voire vos écrits? Alors, parce que là, vous travaillez sur plusieurs textes, vous l'avez dit tout à l'heure, donc oui. Vous travaillez, je suppose, pour essayer d'éditer un autre livre.
Oui, alors il y a plusieurs textes. Il y a donc ce recueil de textes Cahiers d'ubiquité qui est sorti. Il y a un autre manuscrit qui est prêt, qui s'appelle Moyen d'accès au monde, qui est en ce moment en quête d'éditeur, c'est un éditeur montant qui m'appelle. Enfin bon, voilà, le manuscrit est parti chez plusieurs personnes et j'attends les réponses. C'est un livre dont le fil conducteur est non pas le dadaïsme, mais le dandisme. Mais c'est vraiment un fil conducteur, c'est pas du tout un essai sur le dandisme. L'idée, c'est plutôt de récupérer la parole des dandys au 19e siècle et d'essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et ce que j'appelle en fait des moyens d'accès au monde, c'est-à-dire de quelle façon on arrive immédiatement à retrouver, disons, des endroits, des postures, des situations, des rapports aux gens qui permettent effectivement de retrouver justement les enthousiasmes. Il y a différents chapitres sur la nécessité de rester essentiellement inutile, sur la nécessité de rester complexe. Un chapitre sur le sadisme et le masochisme, justement, il faut toujours me traiter de maso. Effectivement, je suis maso, oui, oui. Pas tellement cuir et fouet, mais j'aime bien la logique masochiste de Sacher Masoch.
Et laissez aux auditeurs le choix de...
Et donc différentes réflexions sur les moyens d'accès au monde. Et puis il y a un autre livre qui va s'appeler « Pour un dadaïsme microbien, tentative d'assassinat du bourgeois qui est en moi ». Qui lui n'est pas prêt, mais qui est en préparation et qui est commencé. Voilà où j'en suis.
Écoutez, je me sens un peu frustré parce que j'aurais eu bien d'autres questions encore à vous poser au sujet de l'éducation. Mais on vous réinvitera pour en rediscuter parce que là nous sommes malheureusement pris par le temps. Sébastien?
Deux petites choses rapides, il y a un site, justement, vous crie, on peut les entendre dans vos écrits, Hermaphrodite, non c'est...
Oui, alors effectivement, il y a le site de mon éditeur et de la revue Hermaphrodite, c'est hermaphrodite.fr. Et effectivement, on peut trouver le livre, la revue et différentes activités là-dessus.
Et un petit rappel, c'est que le film Attention, danger, travail est visible à Paris, au Saint-André des Arts, dans une seule salle.
Merci beaucoup, Yann Carninon.
Merci à vous, merci de votre accueil.